Bonjour, la semaine est passée très vite et nous voilà à nouveau ensemble pour une nouvelle émission d'Ondes Positives. Et cette semaine, pour partager avec nous un témoignage authentique et positif, j'accueille Boris Pratt.
Bonjour.
Bonjour Boris. Boris, tu es un jeune Tarn-et-Garonnais de 37 ans. Je t'ai demandé de te définir toi-même en quelques mots et tu m'as répondu, deux points, ouvrez les guillemets, je suis vivant. Je suis un terrien, un être humain, je suis père de deux enfants et je suis engagé dans ma vie ici et maintenant. Fermez les guillemets. Donc c'est une définition.
Comment ? J'ai dit tout ça, ouais.
C'est une définition pas banale. Tu peux nous dire en quoi c'est important de te définir ainsi ?
Parce que ça correspond à ce que j'ai envie de dire et à ce qui me vient. Peut-être aussi pour... Parce que je trouve intéressant de dire les choses comme ça et par exemple de dire quel est simplement mon métier, qui est souvent la première chose qui peut venir quand on demande à quelqu'un qui il est, et je trouve ça extrêmement réducteur. Donc voilà, pour prendre un peu les choses plus largement, et ça correspond aussi à ce à quoi j'aspire.
Donc tu as envie de donner plus d'importance à l'être, au verbe être, en le conjuguant avec je, le je suis, plutôt qu'au faire et à l'avoir.
C'est tout ça de façon équilibrée, voilà.
Oui, c'est toujours une histoire d'équilibre. Est-ce que ça veut dire par là que tu trouves que la société actuelle, la société dans laquelle on vit, donne un peu trop d'importance au faire et à l'avoir ?
Oui, effectivement, je trouve qu'il y a une forme de déséquilibre. Ouais. Alors sur l'avoir, on peut aller vite parce que c'est assez évident, dans notre société, je parle. Et sur le faire aussi, alors ça c'est peut-être plus dérangeant ou moins évident, parce qu'on est quand même assez tissé effectivement de ce côté de la valeur travail, comme disent certains. C'est intéressant, mais effectivement, quelle place ça a dans nos vies, quelle place on lui donne, et surtout, effectivement, quelle place ça laisse au verbe être et ce qui va avec.
Oui, c'est vrai qu'on peut donner comme ça des exemples, sur l'avoir notamment, c'est très important pour les personnes de se dire, j'ai une maison, j'ai un CDI, j'ai de l'argent, j'ai un diplôme, et on peut continuer la liste comme ça très longtemps. Et puis on nous dit aussi, faut pas rester sans rien faire.
Voilà, c'est ça. Le droit à la paresse.
Alors, on va en parler. Alors, le message positif que tu souhaites partager avec nous, c'est aussi, je l'aime beaucoup, éteignez la télé, votre vie a besoin de vous.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Alors, de nouveau, tout à l'heure, j'avais commencé par « je suis vivant » et on retrouve le mot « vie » qui est quand même quelque chose qui me semble important. Et donc, éteignez vos télés, votre vie a besoin de vous, c'est bon, voilà, effectivement une sorte de provocation, et en même temps je pense d'un slogan positif. Pour dire que voilà, il faut pas oublier de la vivre sa vie, et de s'y engager au sens de d'être dedans, quoi, d'accueillir ce qui arrive et de s'en occuper. Quand on regarde les statistiques de 3h30 de télé par personne en moyenne par Français, il y a un peu un évitement ou une fuite ou quelque chose de raté par rapport à la vie quand on est 3h30 devant une vitre pour regarder la vie des autres.
Ouais, c'est pas la télé qui est mauvaise en soi, c'est l'usage que l'on en fait, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est encore une fois une question d'équilibre. Alors, la télé n'est pas mauvaise en soi, pas en soi de manière absolue, mais en même temps, ce qui passe à la télé, dans l'ensemble, je suis pas sûr que ça. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ça fasse pas plus de dégâts. Alors, on va peut-être pouvoir préciser ça, mais voilà, c'est pas anodin non plus ce qui se passe dans la télé. Ce que ça nous fait d'assister comme ça à cette espèce de spectacle, que ce soit un spectacle. Mortellement distrayant, pour la partie futile, ou que ce soit un spectacle qui peut-être nous déchire quelque part quand c'est la partie ce qui se passe dans le monde et des mauvaises nouvelles entre guillemets du monde. Et ce flux à la fois de choses mortellement distrayantes et de choses graves mais dites de façon peut-être à mon avis qui prennent pas la gravité de ce qui est dit,
oui.
Et qui en plus, parce que c'est derrière une vitre,
oui.
Nous donnent accès à rien en termes de possibilités de réaction et de voilà.
Ça participe au sentiment d'impuissance.
Oui,
parfois.
Voilà. Mm-hmm. Et c'est quand je dis aussi engagez-vous dans votre vie, voilà, c'est la question de. Alors pour le coup, c'est faire, mais enfin d'abord c'est être. On pourra
oui.
en reparler.
Oui, on en reparlera.
Mais voilà, c'est de d'expérimenter le fait que bah, c'est à soi de vivre sa vie, c'est pas à quelqu'un ouais. d'autre, et ni vivre la vie des autres. Et donc effectivement, par rapport à, il me semble beaucoup d'impuissance aujourd'hui. Mmh. Enfin, un sentiment d'impuissance et beaucoup d'impuissance aujourd'hui chez beaucoup de gens. La télé est pas pour rien, donc voilà.
D'accord. Alors dans ton discours, il y a cette notion de se réapproprier sa vie en fait. Mmh. C'est-à-dire, ça voudrait dire qu'elle nous appartient plus vraiment. C'est ça que tu ressens?
Oui, effectivement, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de message de fond qui est envoyé par plein de choses dans notre société aujourd'hui,
oui.
qui est de l'ordre de vous occuper de rien,
oui.
on va s'occuper de tout. Mmh. Alors je sais pas si je prends la naissance par exemple pour prendre du début à la fin,
oui.
On va dire à des parents et à une mère en particulier, le corps médical va dire ça, voilà, ne vous occupez de rien, on va vous enlever les sensations, la douleur, on va pas vous expliquer comment ça se passe, etc. Puis hop, vous aurez le bébé va naître, et puis mmh. c'est ce qui enlève aussi quelque chose à ce bébé qui vient de naître, de voilà. Et puis si je prends l'autre extrême, et puis on bougera le tronc entre les deux après sur la mort,
oui.
De quelle manière aujourd'hui on vit la mort de nos proches ou la nôtre propre.
Mm-hmm.
Alors de nouveau, c'est à la fois le corps médical aussi qui prend beaucoup de pouvoir là-dessus, et puis c'est aussi notre culture sur le fait de pas vouloir voir la mort et la vivre, et par exemple emmener des enfants à l'enterrement de leurs grands-parents,
mm-hmm.
et qui voient le corps de leur grand-père ou de leur grand-mère qui est mort,
oui.
avec tout du genre, voilà, que ça va leur faire quelque chose, et qu'il faut éviter qu'il nous arrive quelque chose.
Ouais.
Et justement, voilà, si on fait tout pour s'éviter qu'il nous arrive quelque chose, eh ben, il nous arrivera rien.
Et oui, c'est vrai que les personnes qui tiennent à nous, donc par les parents généralement disent oh mais surtout je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je veux qu'il t'arrive rien, tu comprends?
Ça ouais. fait peur cette phrase quand on l'entend.
Ouais.
Quand on l'entend vraiment.
Alors, qu'est-ce qui fait peur là-dedans?
Ben de ce pouvoir justement, et puis cet évitement de la vie qu'on croit être une bonne chose, mmh. et pour soi, et on pourra, là on revient sur l'être, et pour l'autre aussi, voilà, je veux qu'il ne t'arrive rien, mmh. mais moi je veux qu'il m'arrive des choses.
Alors
pardon.
Toi, justement, tu te définis toi comme papa,
oui.
c'est ce que tu as dit dans ta définition, je suis père de deux enfants, alors toi, comment tu es papa? Et j'utilise le verbe avoir sciemment. Comment tu es
être,
papa?
Le verbe être.
Oui, oui, oui. Oui, le verbe être, j'ai fait un lapsus.
Oui, mais d'ailleurs, je vais rebondir sur ton lapsus, sur le fait, sur l'expression avoir des enfants,
mm-hmm.
qui n'est pas évidente à manier, je trouve. Alors, elle le vient, et bon, faut pas non plus se trop se torturer sur les mots, des fois. Mm. Mais le verbe avoir des enfants, il est pas simple, quoi, hein,
ouais.
parce qu'on n'a pas des enfants, enfin, je crois pas. On les a mis au monde, et on leur a transmis la vie, et ils sont, quoi. Hein,
et oui.
Voilà. Alors, comment je suis papa? Pour le coup, c'est un. Je vais employer le mot travail. Non, pour dire que c'est pas quelque chose d'inné, mm-hmm. et c'est une relation, et c'est tous les jours, et ça vient nous chercher dans plein de choses d'être mm-hmm. d'être parent,
mm-hmm.
Parce que je crois que ça vient nous chercher de notre enfance justement. Ça nous fait rejouer plein de choses.
Donc c'est vivre la relation, c'est vivre sa vie, c'est
ouais, oui, voilà, c'est effectivement toutes ces histoires d'équilibre comme dans toute relation,
ouais.
entre je et tu et entre les deux le nous,
mm-hmm.
De voilà, de la place qu'on laisse effectivement à ce qui arrive à l'autre, et notamment pour revenir par exemple sur les histoires d'être et puis d'émotions et mm. de ce qui est la vie, y compris dans ce qu'elle peut avoir de difficile, Bah, par exemple, accepter la tristesse de ses enfants, mmh. accepter la douleur éventuelle, etc., etc. On a quand même souvent un mouvement. Je vais revenir, par exemple, sur des événements familiaux de décès. Voilà, j'en ai vécu deux cette année sur mes grands-parents, donc ça a été un thème
oui.
Dans ma vie. Et voilà, d'accepter, et pour soi et pour les autres autour de soi, et notamment les enfants, mmh. par exemple, dans des moments comme ça. Ben oui, on est triste dans des moments comme ça.
Oui.
Si on cherche à l'éviter, eh ben on le rate.
Mmh.
Et c'est-à-dire, si on porte pas son attention sur ce moment-là dans sa vie, ce qui est et ce qui est dans des moments-là, c'est être triste, bien sûr.
Oui.
Mais pas que. Mais aussi être triste. Donc je trouve que d'accepter ça chez soi, mais par exemple si je le prends pour l'autre, les enfants, ne pas chercher à distraire un enfant de sa tristesse,
oui.
Sous prétexte de lui éviter entre guillemets, on va pas lui éviter, juste on va l'empêcher de porter son attention sur ce qu'il vit et mm-hmm. ce qu'il vit dans des moments comme ça, c'est de la tristesse par exemple. Je crois pas qu'il faille éviter ce qui nous arrive.
Oui, vivre, c'est ressentir les émotions,
toutes.
Qu'elles soient douloureuses ou qu'elles soient agréables.
C'est ça. Et les émotions, c'est comme une vague, ça monte et ça descend. Et expliquer effectivement, parce que quand on a l'air de distraire un enfant de sa tristesse, le message qu'on lui envoie quelque part, c'est attention, danger. Donc il intègre, même si c'est pas par les mots, mais il intègre quelque chose. Oula, quand je commence à sentir la tristesse, je vois que ça a l'air d'inquiéter mes parents,
oui.
qu'ils font tout pour me l'éviter. Donc ça veut dire que c'est dangereux. Donc qu'est-ce qui se passe quand on vit sa tristesse? Bon, voilà, quand on apprend ça. Mm-hmm. Ça fait peur, alors qu'effectivement, comme toute émotion, mais la joie aussi, ça monte et ça descend. Et si on n'apprend pas qu'après la montée, il y a une descente,
ouais.
quelle angoisse de se dire, ouais, ça veut dire que ça monte, ça s'arrête jamais, qu'est-ce qui se passe,
mm-hmm.
bon.
Alors, est-ce que la vie devient plus extraordinaire quand on la vit comme ça?
Alors, je sais pas de la poule et de l'œuf, lequel vient en premier,
ouais.
Mais oui, effectivement, quand je j'insiste sur le mot vie, vivant, etc.,
oui.
C'est pour célébrer ça, ouais.
Mm-hmm.
On en discutait sur, ouais, une espèce de, alors c'est pas que une prise de conscience parce que ça met que la conscience là-dedans, mais c'est peut-être plus, c'est une prise de ressenti aussi, voilà,
ouais.
je sais pas comment le dire, mais, du caractère, incroyable, extraordinaire de la vie. D'abord,
oui.
de tiens, ben je suis vivant. Il y avait mille raisons pour que ce soit pas moi là, ici et maintenant, et que je sois pas vivant.
Oui, parce qu'on dépend d'une rencontre.
Hein. Voilà, de toutes les rencontres, des générations qui nous précèdent, etc., etc. Et
mm-hmm.
puis la statistique de la fécondation entre des milliers de spermatozoïdes et un ovule, ça aurait pu être d'autres spermatozoïdes, un autre,
ouais.
je veux dire, pardon.
Ouais.
Et ben, paf, tiens, oh, c'est moi.
Oui, donc et la probabilité que l'on soit tel que l'on est,
c'est
elle
ça.
Est infime.
C'est ça.
Ouais.
Donc on peut célébrer ça, et puis ici et maintenant, la mécanique entre guillemets, mais c'est plus qu'une mécanique de la vie, qui c'est milliards de mécanismes dans nos cellules, et c'est milliards de cellules en nous, et puis,
mm-hmm.
et puis tout ce qui va autour et avec, et sur la Terre qui nous permet d'être vivants, c'est quand même assez extraordinaire, et peut-être on l'oublie un peu trop souvent, parce que voilà,
oui.
comme si ça allait de soi.
Alors donc, voir la vie positivement, selon toi, ça serait la considérer comme un cadeau miraculeux quelque part?
Ben, ça fait partie des choses qu'on a reçues effectivement en don,
ouais.
Comme l'air, comme toutes les choses apportées, finalement on s'aperçoit qu'elles sont gratuites,
mm-hmm.
mais pour dire donner quoi.
Ouais.
Donc il y a une forme de gratitude aussi dans le fait de porter son attention sur ça, quoi.
Ouais.
Voilà, merci pour la vie transmise, reçue, merci pour l'air, l'eau et tout ça qui permet justement de vivre tout ça.
D'accord.
Peut-être plus merci pour ça que merci pour le CDI et la chaîne
ouais.
Wi-Fi et la télé et la voiture et je sais pas quoi.
D'accord. Alors merci pour la vie, merci pour les petits moments, merci pour tout ça. Mais ça tombe bien, c'est un morceau que tu as choisi d'écouter. Je le garderai pour moi, c'est Thierry Romanens.
Je me réveille dans ton pieu, je suis à la bourre. Le drap qui couvre ta poitrine monte et descend comme le cours du pétrole. à la cuisine. Les filles s'y tartinent déjà, leurs échéances de la journée. Je devrais être loin depuis une plombe et je te regarde respirer. Je suis comme un gamin dans la rue qui plaque pour voir les jouets, son nez contre la vitrine, j'arrive pas à décoller. On est tout seul dans nos carcasses, au fond de nos pyjamas, à côté des nôtres qui passent, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Alors je le garderai pour moi, l'odeur du café qui fume. Je le garderai pour moi, ce qui ne peut pas être dit. Je le garderai pour moi, quand le vent soulève un peu ta jupe. Je le garderai pour moi, quand elle tombe à tes chevilles. Je le garderai pour moi, les magasins quand ils s'allument. Je le garderai pour moi. Je patauge un peu sous la douche, autant arroser le trottoir. Ça fait longtemps que rien ne pousse, que rien ne sort de mes tiroirs. Je regarde à travers la vitrine, ma vie d'homme dans le miroir. Ces moments délicats, infimes, mes burnes qui dépassent du peignoir. En partant, je vais voir si tu dors, comme je regardais les trains en bois. Le drap monte et descend encore dans ta solitude, toi. Je te trouve belle, mais je sais bien qu'on ne peut coucher ces instants ni sur du papier ni dans des bouquins. Alors, je garderai pour moi. Je garderai pour moi ce carré d'étoffe qui bouge. Je garderai pour moi comme tu respirais ce matin. Je garderai pour moi ce brin de désir qui pousse. Je garderai pour moi que je viens cueillir dans ton jardin. Je garderai pour moi ce goût de chocolat dans ma bouche. Je garderai pour moi. Avec ta pomme qui dort, quelque part au fond de mon cabas, une part de toi dans un tiroir, dans un coin, mon cinéma. Oh, 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 et puisqu'on ne peut décrire comme la vie est belle, une démarche, un joli sourire, alors je le garderai pour moi. Je le garderai pour moi, nos gamines qui grandissent. Je le garderai pour moi, les voir s'envoler lentement. Je les garderai pour moi, les soirs qui jamais ne finissent. Je les garderai pour moi, les pâtes au petit matin. Je les garderai pour moi, les amitiés qui vont, qui glissent. Je les garderai pour moi, qui nous abreuvent souvent. Je les garderai pour moi, mes chansons avant qu'on ne les saisisse. Je les garderai pour moi, qui nous échappent de temps en temps. Je les garderai pour moi, ma main qui cherche ta cuisse. Je les garderai pour moi.
Je le garderai pour moi, Thierry Romanens. Alors, qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette chanson, Boris ?
Ouais, c'est une chanson qui me touche, qui m'a touché quand je l'ai entendue et qui me touche encore. Parce qu'elle parle effectivement d'une espèce de collection de petits moments comme ça auxquels il est attentif et qui savoure. Et voilà, ça me touche, je trouve ça important. Alors, il y a un peu de mélancolie aussi dans la mélodie et dans ce qu'il dit. C'est aussi quelque chose que je vais chercher dans les chansons. Voilà.
On peut être positif et mélancolique.
C'est ça.
C'est le message qu'il y a derrière.
Et aller le chercher dans différents arts ou etc. Et c'est vrai que moi, la chanson, c'est pas mal pour aller chercher la mélancolie, pour la goûter aussi, parce que ça fait partie aussi de la vie, voilà.
Ouais. Et tous les petits moments dont il parle, et ben c'est ces petits moments qui mis bout à bout font la richesse d'une vie en fait. Hein.
C'est ça.
Ouais. Alors Boris, tu nous parlais tout à l'heure d'une prise de conscience, même si c'était pas tout à fait le terme approprié pour toi. Hein. Il y a environ 2 ans, il t'est venu en tout cas à l'esprit que tu étais peut-être un peu trop dans le faire et pas suffisamment dans l'être. Hein ?
Oui, alors c'est pas un moment sur lequel je peux mettre une date. C'est un chemin probablement depuis plusieurs années et à coup sûr encore en cours. Et probablement de l'émergence de quelque chose qui manquait ou d'un besoin d'eux. Donc petit à petit, quand on a besoin d'eux ou quelque chose nous manque, on le cherche et on le trouve ou pas, mais probablement on le trouve.
Et tu t'es dit, je ne suis pas que ce que je fais. En fait, c'était ça.
Voilà, j'ai ressenti effectivement le besoin de rééquilibrer un peu.
Ouais. Et en même temps, tu as eu la prise de conscience que tu étais beaucoup tournée à ce moment-là vers les autres, vers la société, vers l'engagement collectif.
Oui, dans mon faire à moi, y avait pas mal ça. Et je crois que c'est assez fréquent entre guillemets, et ça va avec le rapport qu'on a à l'être et particulièrement aux émotions ou à toutes les dimensions un peu non rationnelles qui sont dans nous. Voilà, donc moi je me suis mis ou ça m'est venu de chercher de ce côté-là et du coup effectivement j'ai croisé et des bouquins et des personnes différentes choses qui m'ont nourri de ce côté-là. D'accord. Et permis effectivement de faire du chemin et de comprendre un tas de choses de les vivre.
Donc pour toi c'est pas un déclic, c'est pas quelque chose en particulier, mais c'est plus un cheminement. D'accord. Ok. Alors l'engagement collectif, l'altruisme, ben parlons-en. Parce que c'est tu m'as dit, c'est culturellement correct, l'altruisme. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux dire?
Ouais, ce que je veux dire là-dedans et voilà que j'ai un peu formulé ces derniers temps. C'est quelque chose qui me semble pas tout à fait dans le bon sens, en tout cas pour moi, de cet altruisme ou de souci des autres qui n'est posé sur rien, c'est-à-dire pas sur soi, qui est entièrement projeté vers l'extérieur et vers une espèce d'injonction morale ou culturelle ou religieuse ou même politique éventuellement, idéologique disons dans tout ça, de les autres d'abord et voilà, alors les racines de ça dans notre culture elles sont assez diverses quoi, hein, soit judéo-chrétienne, soit politique, soit bon bref tout mélangé, ça s'appelle la culture et qui dénie et qui porte plutôt un regard négatif sur l'attention à soi.
Et oui, parce que c'est vu comme nombriliste.
Voilà. Il y a quelque chose de dont on est tissé, je pense, dans notre culture et donc dans notre enfance, et qu'on intègre et qui effectivement aboutit à différentes choses. Mais par exemple, y compris dans des milieux effectivement d'engagement militant et de tourner vers les autres entre guillemets quels qu'ils soient, il me semble pour beaucoup de gens sont posés sur rien. Et c'est ce que j'ai ressenti pour moi en tout cas. Je veux pas parler pour les autres. Ce que j'ai ressenti pour moi, c'est qu'effectivement il manquait comme un socle, une fondation ou un point de départ, un point de vue en fait. Si on met le mot subjectif sur point de vue, c'est-à-dire le sujet, c'est-à-dire soi. Et que c'est pas que cet engagement vers les autres soit mal ou je sais pas quoi. C'est sur quoi il pose, sur quoi il repose. Et sur ce sujet-là, mais comme sur d'autres, les relations, comment on est avec les autres, je crois qu'il n'y a pas d'autre point de départ que soi.
Oui, donc il s'agit d'abord de porter de l'attention à soi-même, de s'ancrer, d'avoir des fondations en soi, pour ensuite pouvoir se tourner, pour pas tomber en gros.
Oui, pour pas tomber et puis pour savoir effectivement d'où on parle, d'où on fait, d'où on ressent et que je crois qu'il y a une forme que si on sait pas ce qu'on sent quand on fait des choses, on arrive assez rapidement à pas savoir ce qu'on fait, je pense, d'une certaine manière.
D'accord.
Voilà, il y a pas ces racines et cet ancrage qui peut aboutir, si on parle encore une fois de question d'équilibre, hein, c'est pas, j'essaie de pas noir-blanc, mais oui, simplement de où est le curseur. Des fois d'un engagement vers les autres, que ce soit, je sais pas, par exemple, du temps passé assis ou ça dans sa famille pour les autres, ou du temps passé assis ou ça dans la société pour les autres. Des choses qui sont pas justes pour soi et qui, du coup... vont chercher compensation quelque part. C'est-à-dire, je sais pas, je vais prendre l'exemple dans la société, un engagement politique qui va au-delà de soi, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on sent et de ses propres capacités en temps, en énergie, en émotion et je ne sais quoi. Cette personne en souffre, du coup. Et pour compenser ça, elle va probablement chercher, je sais pas, par exemple, du pouvoir... de la reconnaissance, mais de la reconnaissance au-delà de juste voilà,
de l'estime qu'elle s'apporte à elle-même, quoi.
Voilà, voilà, je pense que ça provoque des choses qui sont difficiles et pour les gens qui les vivent et pour les gens autour, parce que justement voilà, ça va créer le déséquilibre envers soi, va entraîner un déséquilibre envers les autres. Alors qu'on partait d'une position de je suis gentil avec les autres et je veux faire des choses bien pour les autres. Il y a une espèce de retournement en cours de route, quoi, parce que justement on a perdu cet ancrage, ou on l'a pas eu, cet ancrage en soi, cette attention à soi. À un moment, si ce qui est juste pour soi et qui est cohérent avec ce qu'on sent, c'est de s'engager pour les autres, formidable. Mais s'autoriser aussi, chemin faisant, éventuellement des moments où on le sent pas et on va faire autre chose. Et oui, on va retourner vers soi et on va être entre guillemets nombriliste, si j'utilise ce mot-là. C'est un moment, et en tout cas, c'est un moment qui correspond à soi. Je ne crois pas que dans ce domaine, ce soit tellement utile et juste de se faire du mal, quoi.
Ça. Alors, quel regard tu portes aujourd'hui sur le militantisme et le militant que tu as été?
Alors, on parle du militantisme parce que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse. Mais ce qu'on vient de dire là est valable dans le travail aussi, le travail professionnel, salarié, d'un surengagement au-delà de soi, qui provoque de la souffrance, de la recherche de pouvoir et de ou d'argent. Bref, voilà, les choses se tiennent entre être, avoir et faire. Voilà. Donc effectivement, moi, pour pratiquer les milieux militants, il y a en tout cas par rapport à moi, mon chemin, des choses qui me frappent par rapport à ce qu'on vient de dire. Effectivement, chez un certain nombre de gens que je vois s'épuiser, avec une belle idée au départ, je trouve juste, encore une fois, dans une notion d'équilibre. Dommage d'une certaine manière, parce qu'en tout cas c'est ce que j'ai ressenti pour moi, qui est pas un moment quelque chose de plus doux pour eux-mêmes, et qui du coup qui s'autorise à pas en faire autant. Mais et là-dedans, ce qui se passe aussi dans les collectifs aujourd'hui, citoyens, etc., il y a aussi la question de l'équilibre entre les personnes présentes, parce qu'évidemment quelqu'un qui est surengagé entre guillemets prend de la place pour d'autres quelque part. Donc après les questions de pouvoir dans les collectifs, des questions de par exemple des places de la place des hommes et des femmes, parce que le rapport à ça est différent en général, pour faire une généralité, mais souvent le rapport à justement cet engagement et le temps passé, le pouvoir est assez différent entre les hommes et les femmes. Et pour moi, c'est relié à ce qu'on disait avant.
Alors, tu fais un rapprochement assez fort entre militants, militaires.
Oui, c'est les mots qui sont pas tout à fait anodins quand même dans leurs racines et dans ce qu'ils portent. Et effectivement, il y a parfois, et je pense que ça évolue d'ailleurs parce que les générations passent et que probablement les plus jeunes, c'est encore une fois une généralité, aspirent justement peut-être à quelque chose d'un peu plus équilibré. Mais il y a des fois quelque chose de militaire, effectivement, c'est-à-dire de l'injonction et de l'obligation et des ordres à faire le militant. Les collectifs génèrent ça et la façon d'être dans les collectifs peut générer ça.
D'accord, donc toi tu as choisi d'abord de t'écouter toi, de trouver un sens en fait à tes actions, à ton engagement. Donc aujourd'hui tu ne te définis pas comme militant, mais comme tout simplement engagé.
Oui, si on veut éviter le mot militant,
oui.
Le sens il est bien effectivement dans l'action et dans pourquoi on le fait, etc. Mais juste peut-être c'est mettre sens au pluriel,
oui.
Et aussi mettre un sens effectivement par rapport à soi dans cet engagement pour mm-hmm. les autres. Il y a aussi un sens par rapport à soi ou un non-sens,
oui.
quand il n'y a plus cette connexion avec soi.
Mm-hmm. Donc ne pas oublier sa construction intérieure, son évolution intérieure, même lorsqu'on est engagé pour le collectif. Hein.
Parce que de toute façon, ça contaminera ce qu'on fait.
Ouais.
Si on le regarde pas et si on n'en a pas conscience, etc. Et éventuellement un moment où tiens, bah là j'ai plutôt envie dans ma vie, je sais pas quoi, je vais prendre, je viens d'avoir des petits enfants par exemple, et il se passe ça dans ma vie.
Mm-hmm.
Alors oui, j'ai mes engagements associatifs, machin, etc. Bah ouais, mais peut-être que ce qui se passe effectivement dans ce moment dans la vie de cette personne,
mm-hmm.
c'est une baisse d'un côté pour pouvoir s'occuper d'autre chose, parce que c'est pas une question de place sur le podium, de savoir qu'est-ce qui est plus important.
Oui.
C'est ce qui est à ce moment-là, en tout
et
cas.
Oui.
parce que, à coup sûr, quand même, cette personne a quelque chose en elle d'une envie de passer du temps, par exemple, mm-hmm. avec ses petits-enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus envie de... Mais...
Oui, c'est voilà. Vivre la relation aux petits-enfants, par exemple, pour un...
Dans ce temps-là, ça ouais. va peut-être durer, je ne sais pas, une semaine, un mois, 5 ans. Mais si on écrase ça en se disant j'ai mes engagements
mm-hmm.
avec ce côté cette fois le dans le mot engagement le côté
devoir.
Obligation quoi
ouais.
voilà devoir obligation c'est pas la même chose
ouais.
c'est un engagement qui vient de l'extérieur justement c'est plus je suis engagé et ça vient de moi c'est je m'oblige à quoi c'est
mm-hmm.
pas tout à fait la même chose
d'accord. Alors, on a parlé beaucoup de l'être, du je suis, mais comme tu le disais, c'est une question d'équilibre. Et le faire est important pour concrétiser tout ce que l'on est au quotidien. Alors, j'aimerais bien qu'on en parle. Par exemple, dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que tu fais pour faire ce que tu es? Comment ça se traduit après?
Peut-être simplement par rapport au chemin aussi dans cette vie professionnelle.
Mmh.
J'ai fait plein d'études parce que c'était facile pour moi.
Mmh.
Et puis, petit à petit, une quête effectivement de ce qui me correspondait. Et donc, un certain nombre de réorientations, entre guillemets,
oui.
vers ce que je fais aujourd'hui et qui effectivement me satisfait beaucoup. Donc je travaille dans une société coopérative, une SCOP,
oui.
Qui est une coopérative d'activité d'entrepreneurs, c'est-à-dire une structure qui aide les gens à mener leurs projets.
Mm-hmm.
Je pars exprès de quelque chose de très... On dirait une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Ça, c'est
d'accord.
la formule institutionnelle, entre guillemets.
Oui.
Mais créer une entreprise n'est qu'un moyen pour mener une activité.
Mm-hmm.
Et mener une activité n'est qu'un moyen... pour mener ses envies,
ouais.
d'accord.
D'accord.
Donc finalement, ce qui m'intéresse le plus dans ce travail aujourd'hui, c'est bien parce que les gens arrivent avec des envies
mm-hmm.
et qu'on les aide à concrétiser leurs envies. Alors il se trouve que dans ce cadre-là, concrétiser leurs envies, c'est des envies de développer une activité, leur métier, leur savoir-faire, pour générer de l'activité, du chiffre d'affaires, pour générer un revenu et vivre. Voilà, on est dans le cadre de l'emploi et du travail.
Mm-hmm.
Mais c'est pas la fin en soi, quoi.
Ouais.
Voilà. La fin en soi, c'est que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire.
D'accord.
Et qu'ils s'y épanouissent.
Donc toi, t'es un accompagnateur de projets.
Voilà.
Oui.
J'accompagne les projets. Alors aujourd'hui, je coordonne la structure dans son ensemble. Mais effectivement, une grosse part du travail, c'est d'accompagner les personnes et les projets de ces personnes.
Mm-hmm.
Qui créent donc une entreprise. Je vais le dire simplement.
Oui.
Avec les mots classiques, mais d'une manière un peu alternative, puisqu'ils vont justement pas créer d'entreprise individuelle dans leur coin, etc. Ils vont intégrer la coopérative, on va les héberger juridiquement, on va les accompagner, ils vont avoir un statut de salarié, tout en étant entrepreneurs, ils vont être salariés, ce qui permet
d'accord.
d'avoir une couverture sociale normale. On va assurer la partie administrative et comptable, ce qui les décharge de ça et leur permet de se consacrer au reste.
Oui.
Et puis on va faire du collectif là où d'habitude c'est de l'individuel. Voilà, un entrepreneur. Alors aujourd'hui, le terme qu'on entend beaucoup, c'est auto-entrepreneur.
Oui.
Ça fleurit partout. Mais il y a une forme quand même de précarisation et d'individualisation de du travail, de l'emploi, de la création d'activités, de la couverture sociale, etc. Bref, il y a plein de choses qui se perdent dans ce chemin-là. Et nous, on essaye un peu de proposer autre chose.
C'est un nouveau modèle économique.
Oui, c'est un drôle de truc parce qu'effectivement, on est les personnes qui sont chez nous sont entrepreneurs autonomes, ils sont à leur compte comme on dit, et c'est eux qui décident de leur emploi du temps et de ce qu'ils font. Et en même temps, ils sont salariés mais sans avoir vraiment de patron, puisque moi je suis pas leur patron. Mais ils sont salariés de la SCOP. Et puis ils font le choix effectivement de mener des activités individuelles, mais de les mener dans un cadre collectif, donc de partager et de mutualiser un certain nombre de choses et de se croiser régulièrement à plusieurs, etc., etc. Donc, voilà, on invente ça, on expérimente ça avec les gens. Donc c'est la coopérative s'appelle Ozon, elle travaille sur le Tarn-et-Garonne et le Lot. On a fêté nos 10 ans cette année. Ça existe ailleurs en France, il y a une centaine de structures équivalentes, mais en même temps c'est assez récent parce que ça rebalaye pas mal de cartes, donc il y a plein de choses en expérimentation, en recherche, dans ces nouveaux collectifs d'entrepreneurs qui essayent de faire autrement.
Travailler autrement.
Oui, entreprendre autrement, travailler autrement.
On écoute un deuxième extrait musical, c'est Zoufris Maracas, Un gamin, et on continue la conversation après.
Tu savais d'où je venais, tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Christophe, représentant de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain, tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Va bien, autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée du pognon à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu mines mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Les peuples entiers dans la détresse, et toi tu es flic. Les gens s'affectent tant de la volonté de l'autorité publique. Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic. Les bandits, salauds bandits, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins.
Gamin, Zoufris Maracas.
Oui, alors c'était une chanson qui parle de flics et de gamins. Mm-hmm. C'était simplement pour avoir une petite pensée, parce que ça fait un mois pour Rémi Fraisse, qui est ce jeune qui est mort sur le barrage du Testé dans le Tarn. Mm-hmm. C'est pas loin d'ici, et je me suis impliqué dans ce lieu et dans cette lutte. Mm-hmm. Je pense que ces moments-là aussi et ces luttes-là font aussi partie de la vie. Enfin, moi en tout cas, voilà, ça m'intéresse, ça m'engage, mm-hmm. ça m'affecte. Et évidemment, la mort de cette personne aussi, parce que ça paraît un peu fou, ouais. De se dire voilà, une personne est morte pour une histoire de barrage. Ouais. Et voilà, c'est aussi ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, et c'est grave. Et je crois que ça fait aussi partie de la vie, et d'en parler, voilà, c'était important. Cette chanson parle de ça pour dire, bon sang, nous ne sommes tous que des gamins.
Et oui.
Et on ne peut pas se tuer pour ça, enfin, c'est fou. Mmh. C'est fou.
Et pendant la pause, tu me disais des gamins qui jouent très sérieusement. Je te disais des gamins qui travaillent ensemble, et tu me réponds des gamins qui jouent très très sérieusement.
Oui, on parlait du travail juste avant la chanson.
Ouais.
Oui, je m'extasie de la capacité effectivement qu'ont les enfants à être à la fois dans le jeu, mm-hmm. c'est-à-dire dans quelque chose de léger. Mais en même temps, à fond, quoi.
Oui.
Très sérieusement, oui, effectivement, quand ils jouent au cow-boy et aux indiens, ils sont un indien de manière totale.
Très impliqués, voilà, très engagés dans leur jeu.
Ils sont un indien. Et en même temps, la seconde d'après, ils sont autre chose, ou alors, bon, voilà. Et, bref, ils savent ce que ça veut dire être engagé dans sa vie, c'est-à-dire la vivre, quoi.
Oui.
C'est ça, c'est juste ça.
Bon, donc, il faut regarder comment font les enfants et puis faire exactement comme eux.
Je crois qu'il y a effectivement quelques leçons à apprendre, et d'éviter de leur désapprendre ça.
Ouais.
Peut-être. D'accord. Ça nous évitera à nous adultes de devoir refaire le chemin.
Mmh. Alors, on reste juste encore un petit peu sur le travail. Donc, tu travailles dans cette SCOP trois jours par semaine.
Oui, effectivement, j'ai fait le choix d'y travailler à temps partiel. D'ailleurs, toute l'équipe travaille à temps partiel choisi.
Oui.
C'est une forme d'équilibre, mm-hmm. entre vie personnelle et vie professionnelle.
Oui.
Pour ma part, c'est aussi un choix en termes de revenus.
Oui.
C'est-à-dire de se caler à un certain niveau et de pas chercher toujours plus.
Et c'est drôlement impliquant, ça. Quand on est père de famille, on se doit de ramener un salaire à la maison, et voilà. Comment tu fais pour gérer ça?
C'est la question de comment on vit après.
Et ouais.
Et de qu'est-ce qu'on met dans sa vie, quelles sont les priorités. Mm-hmm. On en revient à voir et avoir, être et faire.
Mais oui.
Ça veut dire un peu moins d'avoir. Mm-hmm. Mais voilà, je crois qu'il y a quand même à se rendre compte qu'un peu moins d'avoir, c'est pas moins de bonheur, parce que bonheur est pas égal à avoir.
Oui.
Et donc effectivement, un certain niveau de revenu, c'est une façon d'une forme de sobriété. Par ailleurs, mm-hmm. je suis effectivement engagé dans des mouvements qui parlent de décroissance,
oui.
qui parlent d'objection de croissance, pour dire pas toujours plus, mais un cran aussi qui parle de décroissance. C'est bien le chemin du retour pour notre société à une empreinte écologique,
oui.
de 1, c'est-à-dire de pas manger la part des autres. Les autres, c'est soit les autres ici et maintenant sur la Terre, qui est un espace fini,
oui, oui.
pas sans limite.
Mmh.
Et les autres aussi, ne pas manger la part des autres, c'est aussi les autres générations à venir, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On mange notre société par son surdéveloppement et sa surconsommation de tout, mange la part des autres ici et maintenant sur cette terre, ceux qui sont vivants en même temps que nous, mais aussi la part de ceux qui viennent après.
Oui.
C'est-à-dire que voilà, on mange le gâteau qui a même pas encore été fabriqué.
Oui.
Et voilà.
Ça peut poser problème.
Ça me pose une question de justice quand même.
Si je fais un énorme raccourci, oui. ça veut dire que décroissance, sobriété égale positif.
Moi, c'est comme ça que je le vis. Je oui. pense que effectivement, mais c'est pas évident. Mais il y a à découvrir qu'il y a un mode de vie supérieur dans moins d'avoir.
Oui.
Voilà, il y a un mode de vie qui est plus réjouissant et qui apporte d'autres choses. Dans moins d'avoir, parce qu'il y a plus d'être. Alors c'est pas non plus un plus d'être sans limite, parce que je crois pas qu'il y ait là aussi pas de limite. Il y a des limites dans tout. Pour couler le fleuve a besoin des rives.
Oui.
mais voilà, clairement, effectivement, je crois pas que moins d'avoir ce soit quelque chose de triste.
À chacun de cheminer avec cette idée-là. Voilà. Boris, je voulais aussi qu'on parle de ce que tu fais. Hein, je suis à nouveau dans le faire concrètement en local. Donc, pendant ces 2 jours par semaine où tu n'es pas à la Scopozone, il y a plein de choses que tu mets en place, et notamment la place de la Palabre.
Est-ce que tu 2 et 2, ça fait 4. 4 jours et 3 jours de travail. T'as laissé le week-end de côté. Mais...
Oui, voilà. Ouais, je me suis dit que c'était consacré à la famille.
Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est juste pour dire qu'au final, ça fait 4 d'un côté et 3 de l'autre, ce qui fait une majorité hors travail.
Hors travail.
Voilà. Oui, dedans. Moi, ce qui est mon chemin et qui me paraît effectivement important, et ça rejoint ce qu'on disait au début sur la télé par rapport à la vie réelle et la vie virtuelle. Et à l'impuissance que provoque le fait d'être toujours son attention sur le virtuel. Je pense important, et moi en tout cas pour moi c'est important d'être dans ce que j'appelle la vie réelle. Et la vie réelle, elle est aussi dans une question d'échelle. Oui, les problèmes du monde, c'est ma zone de préoccupation.
Oui.
Je peux m'en informer et trouver que ça ne va pas, etc., et faire des choses à ce niveau un peu. Mais en même temps, pour de vrai, entre guillemets, ma sphère d'influence, ma zone d'influence, elle est beaucoup plus proche que ça. Elle est beaucoup plus locale. Je sais pas, oui, il y a la guerre entre les Israéliens et les Palestiniens, mais à moins d'aller en Palestine ou à moins d'être ministre des Affaires étrangères, à peu près 24 heures par jour, je n'y peux rien, entre guillemets. Ça veut pas dire que je peux pas avoir un avis, que je peux pas faire des choses ici, des manifs qui, dans un sens ou dans l'autre, bref. Mais en même temps, il y a des choses beaucoup plus réelles en connexion avec ma vie réelle qui sont donc beaucoup plus proches. Et je pense que ça développe de la joie et de la puissance de s'en occuper.
Tu as choisi en tout cas d'investir ton énergie localement plutôt que sur des actions.
C'est pas déconnecté du reste. Quand on a parlé de décroissance juste avant, le local se connecte au global parce que justement on vit sur la même terre. Donc s'engager dans sa vie réelle localement, c'est pour moi de balayer un peu les questions de comment je mange et grâce à qui localement, et de comment j'habite et grâce à qui localement, et à côté de qui j'habite et qui sont ces gens, et de comment j'échange les choses qui font partie de ma vie. Alors les choses, c'est aussi les choses à un moment, hein, c'est des choses, des biens matériels, oui, quand même, hein, on n'est pas des êtres de lumière. Donc voilà, de se poser toutes ces questions.
C'est les questions que tu poses justement à la place de la Palabre, ces sujets qui sont abordés.
Par exemple, effectivement, une chose qui m'occupe, c'est d'animer depuis 3 ans, et on va attaquer la 4e année 2015, sur un moment café, débat, philo, ciné, je sais pas quoi, c'est une espèce de grand mélange. C'est surtout en fait de plus en plus un moment justement pour expérimenter à quelques-uns sa propre parole sur n'importe quel sujet.
Oui.
C'est-à-dire c'est une espèce de soirée d'autoproduction d'idées, comme il peut y avoir l'autoconstruction de maisons pour se rendre compte qu'on sait faire.
Oui.
Il y a aussi l'autoproduction d'idées pour se rendre compte que on n'a pas forcément un avis profond, éclairé sur tous les sujets, mais en même temps, on est bien les premiers experts de nos vies. Et donc, dans nos vies, il y a tout. Et donc, on peut avoir une réflexion et des idées, surtout.
On peut penser par soi-même,
voilà,
plutôt que ce soit la télé qui le fasse.
C'est ça, ça revient à ça, effectivement. On peut passer ses soirées à écouter des débats télé d'experts, et ce faisant, on oublie effectivement d'y réfléchir soi-même. Et d'y réfléchir avec les gens, les premiers concernés, c'est-à-dire ses voisins au sens un peu oui. large, quoi, hein, pas forcément ses voisins immédiats, mais je veux dire avec qui on vit sur le territoire, son bassin de vie, etc. Voilà, passer un peu de temps à ça, donc passer un peu de temps à se poser des questions pour soi et dans les places de la palabre, on prend le temps de l'expression de chacun.
Oui.
Et évidemment, en face, on met aussi, donc ça, c'est des bouches qui parlent, et puis en face, on met des oreilles,
oui.
de prendre aussi le temps. Sans se demander quand l'autre parle, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord, et de quel bord politique il est, et puis de quel univers mental, spirituel, je ne sais quoi il est.
Ouais.
Non, juste, je l'écoute jusqu'au bout.
Mmh.
Et je me suis écouté, je me suis exprimé, et puis j'écoute l'autre et j'écoute ce qu'il dit, et je reçois la totalité de ce qu'il dit avec une forme de pas de neutralité parce que c'est pas possible, mais voilà, d'attention. Et déjà, on fait ça. Dans une soirée, on fait ça. C'est-à-dire qu'on cherche pas à se mettre tous d'accord ou à se mettre tous pas d'accord comme peuvent l'être. C'est ce qui se passe à la télé, dans les débats. On cherche absolument un débat contradictoire.
Oui.
Y a quelque chose de plus fin quand même dans le vivre ensemble et dans la démocratie, parce que finalement, pour moi, c'est un peu l'expérimentation des premières étapes de ce que pourrait être la démocratie, c'est-à-dire de reconnaître des points de vue différents. Différent, ça ne veut pas dire forcément contradictoire, simplement
oui.
déjà différent. Après, la suite du processus démocratique, c'est on arbitre, on essaye de... Voilà, et pour arriver à une décision, parce qu'il y a un certain nombre de choses, il faut décider. Bon, dans les places de la palabre, on n'a rien à décider.
Mm-hmm.
Donc on se contente de la première étape, et c'est déjà pas mal.
Oui.
L'expression de chacun sur un sujet. Avant l'expression, il y a la réflexion.
Mm-hmm.
Et l'écoute des autres. Et puis le partage de ça, voilà.
D'accord. Et c'est un Nègrepelisse à la médiathèque de Nègrepelisse.
Ouais. Alors ça s'est fait effectivement en partenariat avec la médiathèque. Moi, je fais ça bénévolement et la médiathèque, ça fait partie de sa programmation.
D'accord.
C'est tous les premiers jeudis du mois à 20h30. En général, à la médiathèque de Nègrepelisse, c'est quelques fois dans l'année au château de la cuisine, qui est le centre d'art et de design à Nègrepelisse aussi. Donc bon, voilà. Et plus d'infos sur le site Place de la Palabre.
blogspot.fr, d'accord,
qui est un petit blog pour donner le programme.
On mettra toutes ces coordonnées de toute façon sur le podcast de l'émission.
Merci.
Je vois que le temps file et donc on n'aura pas le temps de parler de tout ce qu'on s'était dit. On écoute le troisième extrait musical et puis on aura comme ça encore quelques minutes pour dire deux trois choses. Étienne Perruchon. Alors, c'est complètement étonnant. Tu peux nous en dire deux mots?
Alors, c'est un album qui s'appelle Dogora, qui est la bande originale d'un film qui s'appelle Dogora aussi, de Patrice Lecomte. C'est une commande de Patrice Lecomte à Étienne Perruchon, qui est compositeur et qui a écrit la musique, mais qui a aussi inventé la langue qui est parlée dans la musique.
Mmh.
Donc voilà, ce qu'on entend, les mots qui sont dits dans la musique, c'est une langue inventée par le compositeur.
D'accord.
Il a composé la musique et la langue.
Ouais. Voilà. Et ça, t'aimes bien cette idée d'avoir inventé la langue, d'avoir inventé la musique.
Je trouve ça très très chouette et une belle idée. Et la musique est belle. Et j'ai découvert ça dans un stage de danse cet été et j'ai trouvé ça très beau.
D'accord. Merci en tout cas pour cette découverte. Je disais tout à l'heure, on n'aura pas le temps de parler de tout, notamment du Sol Olympe.
Ouais.
Donc, on renvoie les auditeurs au podcast.
Oui. Donc, sol-olympe.info. Le Sol Olympe, c'est une monnaie locale. Alors voilà, on est dans ces expérimentations avec les autres localement qui cherchent à faire des choses ici, mais qui impactent ailleurs. Bon, voilà.
D'accord.
Des choses importantes. Renseignez-vous, ça existe. Une monnaie locale sur le Tarn-et-Garonne.
Très bien. Et puis, le mot de la fin, c'est aussi le temps que tu t'accordes à toi, parce qu'on a parlé donc de tes engagements, de ce que tu fais en local, mais ce que tu fais en local, c'est aussi t'occuper de toi, revenir à ta vie intérieure. Et tu m'as dit, c'est important de faire rien. Parfois.
Oui, voilà, ça fait partie des. Mais c'est pas facile. Enfin, et pour moi, c'est pas facile.
Oui.
mais je crois que ça fait partie de ce qui est important. Notamment, bah, par exemple, je fais du yoga. Et effectivement, et dans les postures et dans la méditation, il y a quelque chose de quelque chose qui est vécu et qui est très profond et très riche et qui moi me fait un bien fou. Donc voilà.
Bon, très bien. Je te remercie beaucoup,
merci.
Boris. Merci pour ton témoignage. Je suis sûre qu'il aura donné envie à certains auditeurs de se réapproprier leur vie, de la vivre de l'intérieur. Si les auditeurs sont intéressés par tout ce que tu as dit, par la place de la palabre, le Sol Olympe, la Scoposon, bien sûr, ils retrouveront les coordonnées de tout ça sur le podcast de l'émission. Voilà, chers auditeurs, engagez-vous dans votre vie, c'est toujours le bon moment. Hein.
Belle journée à tous.
Et si vous avez envie d'en témoigner, ben, contactez-moi, dorothée.alio@hotmail.com ou sur la page Facebook Onde Positive CFM Radio. Cette émission est rediffusée samedi à 21h et vous la trouverez en podcast sur cfmradio.fr. Voilà, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une semaine des plus positives et à mardi prochain.